Allô, Radio Immo, les auditeurs ont la parole.
Les auditeurs ont la parole sur Radio Immo. Ils posent toutes leurs questions pour bien investir dans la pierre. On est ravis d'accueillir sur ce plateau Arnaud Groussac. Bonjour Arnaud.
Bonjour Fabrice.
Président de Patrimoine Store, et Benjamin Falguérac. Bonjour Benjamin.
Bonjour à tous.
Le responsable des partenariats à Le Revenu Pierre. Alors, on s'intéresse, chers amis, aujourd'hui à l'investissement en LMNP, étudiant ou senior. Comment on décrypte le marché? Comment bien investir? Quels sont les pièges à éviter? Autant de questions qu'on va vous poser. Première question, Arnaud, c'est pour vous, le LMNP. LMNP, on en entend de plus en plus parler, le loué meublé non professionnel. À quoi ça correspond exactement? C'est une des premières questions.
Alors, c'est assez technique, mais pour le simplifier aux auditeurs, vous achetez dans une résidence gérée, donc loueur meublé non professionnel, un appartement avec des meubles qui va être géré par un gestionnaire qui est une société professionnelle qui va exploiter la résidence. Et grâce à ça, vous allez pouvoir amortir les murs que vous achetez et les meubles. Ces amortissements vont venir se déduire des loyers et donc vous créez des revenus nets d'impôts. Donc à l'heure de la grosse fiscalisation des revenus fonciers, c'est effectivement une source de diversification importante pour les investisseurs qui peuvent se créer des compléments de revenus nets d'impôts.
On est d'accord que, Arnaud, c'est un statut LMNP.
Exactement.
Je peux en faire de manière personnelle. Je pourrais très bien avoir un appartement et le louer de cette façon.
Exactement.
Mais ce dont on va parler aujourd'hui, c'est plutôt les LMNP étudiants ou seniors. Alors, quelle est justement la différence?
Alors, on va pouvoir en parler pendant l'émission, mais aujourd'hui, étudiant ou senior, ça va dépendre de la typologie de la résidence. Est-ce qu'elle est destinée à des étudiants ou est-ce qu'elle est destinée à des seniors? Donc, quand on parle de senior, c'est le 3-4e âge aujourd'hui, c'est-à-dire ce ne sont pas les EHPAD, hein, pas les médicalisés, ce sont vraiment les résidences pour personnes valides qui souhaitent ne plus être seules chez elles et qui veulent avoir une vie et retrouver une vie sociale dans ces résidences. Donc c'est de ces résidences-là.
Alors, vie sociale, et on précise aussi un ensemble de services souvent.
Exactement.
Que ce soit pour les jeunes ou pour les anciens. Bah, d'ailleurs, ça se retrouve un peu, ça va être des parties communes, plus équipées.
Exactement. Alors, il faut savoir que légalement, le gestionnaire, il a l'obligation de fournir des services, à minima 3, mais globalement, sur toutes ces résidences, il y en a plus. Pour les étudiants, ça peut être l'accueil, le ménage, le petit déjeuner, le service de lingerie, par exemple, pour les draps, etc. Et pour les personnes seniors, ça peut aller beaucoup plus loin avec un restaurant, avec du kiné, avec une piscine, avec voilà, tout un tas de services qui vont être mis à disposition des résidents et des locataires de ces résidences-là.
Benjamin Falguérac, juste une petite présentation quand même de Le Revenu Pierre, puisqu'on connaît Arnaud, on vous connaît un petit peu moins.
Et oui, mais vous allez apprendre à me connaître. Le Revenu Pierre, c'est une société qui a été créée en 2007. L'idée étant d'organiser le marché secondaire, c'est-à-dire des produits qui sont dans l'ancien, qui ont été achetés au tout début, au démarrage, souvent dans le neuf par des investisseurs particuliers, sous le statut LMNP dont parlait Arnaud, dans des résidences gérées par des exploitants professionnels, avec la petite particularité, c'est qu'il y a une relation contractuelle qui est un bail commercial. Donc c'est assez spécifique, on y retrouve essentiellement des résidences d'étudiants, des résidences seniors, mais pas que, il y a du tourisme, il y a de l'EHPAD, il y a de la montagne et de la mer, on en reparlera. Le constat qui a été fait au début des années 2000 par le fondateur, qui est lui-même propriétaire, multipropriétaire de produits comme cela, c'était qu'il n'y avait aucun opérateur spécialisé qui étant capable de proposer ses services déjà aux revendeurs, aux personnes souhaitant se dessaisir de ses biens, mais aussi aux acquéreurs souhaitant investir plutôt dans l'ancien que dans le neuf.
Et oui, donc c'est un marché finalement de la seconde main.
Oui.
C'est ça que vous organisez, qui n'était peut-être pas bien organisé.
Qui n'était pas organisé. Il y avait aussi moins de produits présents sur le neuf. Aujourd'hui, mécaniquement, ces produits sur le neuf sont amenés à être revendus, soit parce qu'ils sont en fin de défiscalisation, soit tout simplement les investisseurs ont des accidents de la vie, sont amenés peut-être à revendre leurs biens et ils n'ont jamais trouvé par le passé d'opérateurs les aidant là-dessus.
On a une idée justement du nombre de biens qui sont sur le marché?
Le nombre de biens, c'est colossal. Ça augmente chaque année. La croissance double quasiment tous les 2 ans. On est à 3500 lots revendus en 2020. Ça représente presque 300 millions d'euros échangés. On pense souvent que c'est un marché de niche, un marché qui est assez confidentiel, mais réellement, il y a de la revente qui se fait là-dessus.
Donc 300 millions, ça fait à peu près 100 000 euros la transaction.
Voilà, exactement. Ce sont des lots qui, en moyenne, ont un budget moyen entre 100 et 120 000 euros.
Puis, pour aller dans le sens de Benjamin, il y a aussi un phénomène qui arrive sur le marché aujourd'hui, c'est les premières sorties de lois Francis Bouvard. Oui. En 2008, quand la loi Cellier a été créée, les gestionnaires et opérateurs de meublés ont voulu le pendant de la loi Cellier, qui était la loi Francis Bouvard. Et aujourd'hui, les premières arrivent globalement en masse sur le marché, que ce soit de l'étudiant ou du senior. Ce qui fait qu'il y a un marché de la revente aujourd'hui qui est beaucoup plus conséquent qu'il y a quelques années, notamment avec ces résidences-là.
Très bien. Alors, on rentre dans le vif du sujet avec les questions des auditeurs. Tiens, une question d'actualité. Quelles sont les conséquences du Covid sur ce type d'actifs ? Est-ce que ça a été pénalisé ? Est-ce qu'il y a des gens peut-être qui ont eu peur, qui sont sortis ? Comment ça s'est passé ?
Clairement, le Covid a eu des conséquences sur toutes les activités économiques, quelles qu'elles soient. On va sortir deux grandes familles. N'oubliez pas, le LMNP, ce n'est pas un produit unique. C'est différents secteurs. Arnaud en parlait. On peut aller de l'étudiant jusqu'au tourisme, mer et montagne. Ce sont deux activités qui sont très, très différentes. Donc, on va juste, pour faire simple, classer ceux qui ont souffert du Covid et ceux que vos auditeurs ont pu lire dans la presse et partout que les exploitants avaient des difficultés à payer les loyers. C'est le tourisme mer, le tourisme montagne et le tourisme d'affaires, qui est apparenté à de l'hôtellerie. On a tous vu que les hôtels avaient des difficultés dans les ultra-cœurs de ville, à Paris notamment, et ailleurs. Donc là, sur ces secteurs-là, les exploitants n'ont pas pu forcément honorer leur promesse de tenir les loyers, de payer les loyers. On s'est retrouvé avec des franchises, des abandons et parfois des exploitants qui sont allés se réfugier chez le juge pour essayer de trouver des conciliations avec leurs propriétaires. Ça, c'est ce qui n'a pas été malheureusement résilient. Et puis, il y a d'autres secteurs d'activité qui le sont, que sont l'EHPAD, ce sont les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, précisons-le, dépendantes, le senior service, donc ce sont personnes valides, et enfin les étudiants. Ces trois secteurs ont passé la crise sans grande difficulté. Les exploitants payent les loyers et, Dieu merci, majoritairement, le revenu Pierre est sur ces trois segments.
Autre question, comment vous assurez-vous que les biens n'ont pas de défauts, de problèmes, et que le gestionnaire paye les loyers ? C'est connexe.
Alors effectivement, ça c'est une question qui est un petit peu générale. Avant peut-être de répondre à la question tout de suite sur la connexe, c'est on a véritablement des critères de sélection qui sont connus et usités. Bien sûr qu'on va aller s'intéresser à les défauts de la résidence, est-ce que les loyers seront payés, mais il y a déjà en amont des critères de sélection qui font vérifier. Les investisseurs sont toujours surpris qu'on se pose la question des profitabilités des résidences. Ça c'est fondamental, on est sur des résidences qui sont des entreprises elles-mêmes. Une résidence qui ne va pas gagner d'argent, c'est une résidence qui, malgré un bon emplacement, un bon gestionnaire et un bon bail, ne pourra pas tenir le rythme de croisière. Donc la première chose, les profitabilités d'exploitation. Je ne veux pas noyer les auditeurs sous des chiffres, mais il y a des choses que eux ne peuvent pas vérifier et que nous vérifions. Des comptes d'exploitation, des ratios internes de profitabilité. Premier sujet. Oui. Deuxième sujet, une notion que vous maîtrisez bien, c'est les emplacements. Vous êtes tous de l'immobilier, vous allez vous dire l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Mais en réalité, dans le LMNP géré, l'emplacement n'est pas le nerf de la guerre. Un emplacement trop prime, c'est-à-dire un emplacement d'une résidence
trop cœur de ville.
Trop cœur de ville pour, par exemple, de l'étudiant, c'est-à-dire un emplacement chic et cher. On va pas implanter rue de Rivoli une résidence d'étudiant, elle ne trouvera jamais son modèle économique. On préfère s'implanter à Tolbiac, je parle pour les Parisiens, mais on peut s'implanter ailleurs en France sur des hubs proches des universités. Donc l'emplacement est une chose que l'on vérifie.
À Toulouse, on ne sera pas place du Capitole.
À Toulouse, on ne sera pas place des Carmes, exactement. Quoique, même s'il y a une résidence.
Pardon, excusez-moi Benjamin, mais c'est un critère important, ça. C'est-à-dire que dans l'analyse de la résidence, c'est ce qu'on appelle le recyclage du produit. Oui. Est-ce qu'il est adapté au public
qu'on a en face
et à l'emplacement? Effectivement, si vous prenez, on prend souvent l'exemple de, si vous faites une résidence étudiante de 200 logements au fin fond de la Creuse, s'il n'y a plus de gestionnaire, vous n'en ferez rien. Par contre, même si vous n'êtes pas dans un quartier chic et que vous êtes proche des universités, là, vous allez pouvoir, sans gestionnaire demain, parce que c'est ça, là, le produit peut durer plus longtemps que le gestionnaire. C'est une vraie question de fond à meubler. Si jamais vous n'avez plus de gestionnaire, vous pourrez tout à fait le relouer, vous, en direct, à des étudiants. Et donc là, dans le recyclage du produit, c'est important.
Et notamment le bâti, puisque c'est un des autres critères qu'on va vérifier. On va vérifier comment est entretenue la résidence, comment elle est aussi configurée, parce qu'on pense à l'après. L'idée n'est pas d'accompagner les clients pendant 10 ans. Il faut se dire, qu'est-ce que devient cette résidence d'étudiants, cette résidence senior? Ça doit devenir demain une copropriété normale. Donc c'est aussi quelque chose qu'on regarde sur le bâti, niveau d'entretien. Et enfin, en dernier lieu, l'exploitant. On va le mettre sous la loupe, on va regarder son actionnariat, sa stratégie, son comportement avec les propriétaires, et je rejoins la question de l'auditeur qui dit, est-ce qu'il paye le loyer? Nous vérifions qu'il a payé le loyer dans le temps, pas uniquement le dernier mois, pas uniquement dans la résidence, sur toutes les résidences de son parc. Donc voilà une question un peu générique, mais il y a du travail, c'est pas juste les loyers et la façade, si elle est juste belle et bien entretenue.
Donc pour résumer, vous checkez la checklist profitabilité, emplacement, bâti, exploitant.
Exactement.
Bien ça, on a tout noté. Tiens, question, ça fait le lien, et on reparle de Toulouse. On m'a proposé un bien étudiant sur Toulouse, mais j'ai peur d'être trop loin de la fac. Comment être sûr que l'emplacement est bon ?
C'est une bonne transition avec ce qu'on disait juste avant. Comment être sûr que l'emplacement est bon, en fait, si vous sortez de la logique meublée, se dire, bah tiens, si c'était pas avec un gestionnaire, est-ce que j'arriverais à le louer? Est-ce que j'aurais de la demande? Alors, il y a un petit jeu comme ça, on l'a déjà fait avec nous, des clients de la plateforme qui avaient des craintes. On leur a dit, bah vous savez ce que vous faites, vous prenez le plan, vous allez sur une plateforme de location en ligne gratuite, vous mettez l'annonce avec le loyer et vous voyez si vous avez des demandes. Et si dans les 20 minutes vous avez 150 demandes, c'est que vous êtes au bon emplacement. C'est un moyen très amusant de vérifier, mais ça rejoint ce qu'on disait juste avant, d'être proche des centres de vie. Si effectivement
aujourd'hui, étude de marché en temps réel.
Exactement. Et si aujourd'hui vous avez effectivement une résidence étudiante qui est à trois quarts d'heure ou une heure sur des villes périphériques comme ça de transport en commun, parce que prenez en compte les bouchons, prenez en compte la mobilité étudiante par exemple. Mmh. Ils n'ont pas forcément de voiture, ils ont besoin des transports en commun, du bus. Mais un étudiant acceptera beaucoup moins de faire une heure et demie de transport en commun. Voilà, c'est pas sa résidence principale, c'est le temps de ses études. Donc il faut qu'on soit proche des hubs, proche des universités. Et la logique en senior est la même. Il faut qu'il y ait soit un emplacement qui permette d'avoir des transports en commun, soit que la résidence mette en place des systèmes de navettes pour permettre aux seniors d'aller en centre-ville, etc.
Ouais. Voilà, donc c'est sur d'autant chaque... que l'étudiant, bah, il y va de moins en moins en cours. Hein. Il y a les visios maintenant. Et certains ont pris l'habitude et puis d'autres préfèrent aller à la fac.
Du coup, on le voit apparaître sur les nouvelles résidences. Il y a beaucoup d'espaces de coworking aussi et d'espaces de vie autour de cet espace visio, mais plus sur des neuves que sur de la revente.
J'hésite entre une résidence étudiante ou senior. Pouvez-vous m'aider? Quel est le mieux?
Alors, le mieux, il n'y a pas forcément de mieux. Ça va plutôt être des fourchettes de budget, de manière pragmatique, ce qui va arbitrer le choix. Aujourd'hui, on sait que les deux supports sont des supports très résilients. Si vous êtes bien placé, que vous avez une typologie de résidence qui est cohérente, c'est très résilient. Pour donner une idée à notre auditeur, de l'étudiant aujourd'hui cohérent, vous allez être entre 70 et 110 000 euros, par exemple, pour de la région parisienne, sur les plus gros budgets. Rarement au-dessus. En revanche, sur du senior, vous allez plutôt commencer aux alentours de 130 000 euros jusqu'à 300 000 euros si vous avez une belle résidence senior sur la Côte d'Azur avec vue mer, par exemple. C'est des choses qui existent. C'est très rare, mais ça existe.
Donc, les rentabilités sont les mêmes?
Quasiment. Ça va être quasiment les mêmes choses.
On est à quoi? On tourne autour de combien?
Alors, globalement, là, c'est plutôt Benjamin qui peut répondre, mais moi, de la partie commerciale, on va être plutôt entre du 3,5 à 4,5% suivant les rentabilités. Après, attention, c'est une rentabilité loyer sur immobilier. Vérifiez bien les charges qu'il y a derrière, parce qu'il y a des villes qui sont assez surprenantes en termes de charges et notamment de taxes foncières.
C'est vrai. Même question du coup, sur la rentabilité espérée, est-ce qu'il y a un produit à privilégier plutôt qu'un autre? L'étudiant, le senior, en fonction des enveloppes?
Non, non. Il y a une réalité qui est celle des investissements en général, c'est-à-dire que le rendement est le reflet du risque.
Voilà. D'accord.
Donc simplement, sur les deux actifs dont on parle et qui intéressent les auditeurs aujourd'hui, qui sont l'étudiant et le senior, on est sur les deux actifs les moins risqués de l'univers du LMNP. Donc mécaniquement, on a les rendements les plus faibles, mais on en a pour son argent. C'est un petit peu le fonds euro du LMNP, on va sur des produits sécures qui ont traversé la crise. Si vous voulez du rendement très fort, vous allez sur du tourisme, mer et montagne, mais avec les conséquences qui peuvent être celles-ci. Donc je rejoins Arnaud, les rendements sont sur le marché secondaire un petit peu plus élevés que sur le neuf, bien évidemment, mais on tourne entre 3,80 et 4,5 et on évite ces produits trop rentables qui sont quelque part des produits qui peuvent...
Attention, mauvaise année, effectivement. Arnaud, j'envisage d'investir en mettant 50 000 euros d'apport, est-ce judicieux?
Alors oui, le sujet du loueur meublé, nous on a eu beaucoup de demandes depuis le mois d'août de transfert d'épargne par les montagnes d'épargne accumulées pendant le Covid sur du meublé. Alors oui, c'est un support, contrairement aux revenus fonciers, où vous pouvez mettre de l'apport. Ce que l'on disait en préambule, en présentation du statut fiscal, c'est que vous allez amortir vos murs. Donc ça va créer uniquement une charge comptable. Donc si vous achetez 100 000 euros de murs, vous allez les amortir entre 20 et 25 ans, donc on va faire un compte rond, vous allez pouvoir déduire tous les ans 4 000 euros de charges comptable de vos loyers. Ça veut dire que même si vous n'avez pas d'intérêt d'emprunt ou très peu d'intérêt d'emprunt, vous allez, grâce à ce mécanisme-là, pouvoir créer des revenus nets d'impôts. Et aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup de clients qui, suite au Covid, ont un peu envie aussi de se faire plaisir. Le meublé est un bon moyen de toucher, même si vous payez cash votre bien, de toucher une rente nette d'impôts pour profiter. Et nous, on a des clients qui touchent leurs 250-300 euros net par mois. Alors, c'est souvent payé au trimestre, mais qui les mettent de côté. Ça paye les vacances suite au Covid. Et c'est un support qui permet de s'adapter à tout le monde. En fait, que vous soyez à la retraite et qu'en paiement cash, ça marche. Que vous soyez très jeune à 20-25 ans.
Alors justement, tiens, vous anticipez, je suis jeune, 25 ans, je suis locataire et je veux commencer à investir sans apport en LMNP. Est-ce judicieux à partir de quel budget?
Alors judicieux, oui, parce que plus vous y prendrez tôt, oui. et mieux ça sera. Et effectivement, on a toute une clientèle aujourd'hui de jeunes actifs habitant dans les grandes villes qui n'ont pas les moyens d'être propriétaires. Aujourd'hui, acheter sa résidence principale sur du Paris, sur du Bordeaux centre devient par exemple très compliqué. Et donc, investir est un bon moyen. Ça, c'est pas forcément de la loi Pinel à chaque fois qu'il faut faire. Ça peut être du loueur meublé. Et surtout, le loueur meublé va vous permettre de démarrer par un petit budget. Mmh. Par expérience, il vaut mieux avoir 2-3 petits meublés si vous commencez jeune, ouais. à 70-100 000 euros, qu'un très gros dès le départ, parce que ça va vous permettre d'arbitrer pendant votre vie. Si dans 10 ans, vous avez besoin d'un peu de cash pour arriver...
Je pensais plutôt à ce jeune-là qui investit tout de suite, oui. Qui commence, donc c'est une bonne habitude déjà par rapport au banquier.
Exactement.
Ça, il faut le compter, mais surtout à un moment, il peut se dire, bah tiens, il va peut-être se marier, avoir des enfants, avoir envie d'avoir son chez-soi. Là, il peut être bloqué dans sa capacité d'emprunt. Comment ça va se passer?
Alors pour justement, le loueur meublé a aussi cet avantage-là assez génial de ne pas avoir de durée d'engagement, contrairement à une loi Pinel où vous allez partir pour 6 à 9 ans. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un produit qui est fait pour la revente et qui est spéculatif si vous l'achetez sur 3-4 ans. Donc, c'est quand même l'objectif, c'est de prévoir la situation dans les 10 prochaines années pour se dire, ben, ce jeune, si dans 10, dans 3, 4, 5 ans, vous voulez acheter une résidence principale, quel budget vous aimeriez y consacrer, combien ça va représenter en charge. Si vous vous mariez, bah, il y aura du coup deux salaires. Donc il faut que l'investissement soit le moins impactant possible en termes d'endettement. D'où l'intérêt d'aller peut-être sur ce jeune-là, sur un senior, financer le plus longtemps possible. Aujourd'hui, c'est plutôt du 20 ans. 25 ans est un peu plus compliqué à meubler. Mais d'avoir l'investissement le moins impactant pour commencer à privilégier du patrimoine. Et si malgré tout, dans 7, 8, 9, 10 ans, il veut acheter et qu'il a besoin de revendre, ben Benjamin sera là pour le lui revendre avec grand plaisir, parce qu'il n'y a pas de durée d'engagement.
Alors, excellente transition. Benjamin, on va vous poser la question, puisqu'on l'a. Je veux revendre un appartement en résidence senior acheté il y a 10 ans. À qui puis-je le confier ?
Alors, je vais déjà tordre le cou on va dire une légende urbaine, c'est que le LMNP en résidence gérée serait un marché peu liquide et il serait compliqué de revendre son bien. C'était le cas il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. C'est totalement faux. J'ai donné des chiffres tout à l'heure, 3500 lots vendus quasiment chaque année. Mais donc, je vais répondre à cet auditeur. Alors, on va dire, il a trois solutions. La première, c'est confier son bien au hasard. Il met son lot sur le bon coin. Et il attend le pèlerin qui pourra venir le lui acheter. Mon avis, mauvaise solution, et souvent ces gens qui font ça finissent chez nous pour revendre leur lot. La deuxième solution, il va avoir un agent.
Ça marche pas.
Ça ne marche pas, ça marche peu. Très simplement, l'investisseur qui va acheter ce lot, c'est pas monsieur tout le monde. La plupart des appels sur ce type d'LMNP sont des gens qui veulent soit occuper le lot eux-mêmes, soit mettre un enfant, soit peut-être ne respecteraient pas les conditions du bail ou les conditions liées au LMNP. Donc vous ne trouvez pas l'acquéreur qui est adéquat. Et c'est pour cela que notre mode, et je divague un petit peu, mais nous ne commercialisons nos biens que par le biais de conseillers en gestion de patrimoine. D'accord. Qui trouvent donc des investisseurs averti, aguerri, c'est le métier d'Arnaud que de
c'est
leur expliquer.
C'est le filtre du conseiller en gestion de patrimoine, filtre. Arnaud, de dire, tiens, vous avez telle problématique par rapport à votre patrimoine, par rapport à votre trajectoire finalement, ce que vous anticipez, et donc ensuite, il s'adresse à des professionnels
exactement.
Comme vous.
Donc sur le bon coin, vous aurez tout, et pas forcément ce qu'il faut.
On aura la mamie qui cherche son prochain logement, on aura, oui.
Vous aurez pour une résidence d'étudiant, par exemple, un monsieur qui veut y placer son fils parce qu'il pense qu'il fera ses études de médecine dans 4 ans à Nantes. Ouais. Sauf qu'il n'est pas possible d'occuper le bien soi-même, on le confie en bail commercial.
Bien sûr.
Donc voilà. Bon coin, mauvaise
idée. Donc le bon coin, on oublie.
On oublie l'agent immobilier. On pourrait se dire, c'est un professionnel du secteur, il connaît ses prix mètres carrés, mais on n'est pas sur des mètres carrés. On est entre des murs de boutique et un logement d'habitation traditionnel. Donc, souvent, l'agent immobilier, les revendeurs viennent nous voir. Donc, on retombe chez qui ? Chez nous, chez d'autres, mais des opérateurs spécialisés du marché secondaire. Parce que clairement, nous, on va pouvoir apporter des choses essentielles. On va pouvoir apporter une sécurité juridique. On n'en a pas encore parlé, mais je suis sûr que les auditeurs, ça doit fourmiller sur la TVA. C'est un réel sujet. On doit faire les choses proprement, correctement, en respect des règles, pour que le vendeur ne perde pas la TVA qu'il a acquis dans le neuf au tout démarrage. On va lui apporter une liquidité de son produit par un réseau de distribution professionnelle qui trouve des investisseurs qui savent dans quoi il achète, donc plutôt solide et fiable avec des financements qui vont au bout. On n'est pas sur monsieur qui arrive et qui ne sait pas ce qu'il achète avec un financement qui n'est pas monté. On va leur apporter, on va dire, un juste prix. Le vendeur en attend un prix mirobolant. L'acquéreur en attend un prix à la casse. On est le juste prix et on fait ce juste prix entre les deux. Et c'est surtout après un accompagnement. Vous n'avez pas, vous, à gérer le bien. Vous nous le confiez à la commercialisation. On va le mettre, on va le packager, le mettre en commercialisation. On va le gérer auprès des notaires, jusqu'à l'acte. Chez nous, vous voyez, c'est 4 personnes qui s'en occupent et c'est 3 études notariées.
Bon, on oublie les sites de petites annonces, on oublie l'agent immobilier, on s'adresse en priorité à Benjamin, au revenu
à
Pierre.
Un professionnel.
Mais j'ai quand même une question, comment vous vous rémunérez du coup? Est-ce que ça, c'est quoi? C'est quel business model?
Alors le business model, il est assez simple. On va prendre un tout petit peu de commission côté vendeur. Et un tout petit peu de commission côté acheteur. On n'a pas de commune agence immobilière.
Sur la vente.
Sur la vente, d'accord. Exactement. C'est un petit peu chacun qui met un petit bout. Sachez aussi que je rémunère un conseiller à gestion de patrimoine qui est partie prenante à la vente. Je n'ai pas de force de vente en interne. Mm-hmm. Donc la valeur que je dois créer, c'est un petit bout sur le vendeur, un petit bout sur l'acheteur.
Très bien. Alors, vous l'avez abordé et on a cette question justement sur la TVA. J'ai lu que je devais rembourser la TVA si je revendais avant la date anniversaire des 20 ans. Est-ce exact?
Et non, c'est pas tout à fait exact. Alors ça, c'est une grande crainte des vendeurs et c'est ce pourquoi ils nous interrogent. Parce qu'ils se disent tout de suite, mettez-vous à la place des auditeurs, 100 000 euros investis en hors-taxe, 20% de TVA sur un bien à 100 000, c'est 20 000 euros suspendus dans les airs où ils se disent je risque de les perdre et de les rendre au fisc. Donc en réalité, il y a 3 conditions dites de continuité d'activité à respecter. La première, elle va concerner la résidence. La résidence doit continuer de servir les services proposés, les services obligatoires. Arnaud, on en a parlé, le linge, le petit déjeuner, je n'y reviens pas. La revente entre un vendeur particulier et un acheteur particulier va pas causer de changement d'activité de la résidence. Donc on oublie ce sujet-là, mais on le vérifie. Le deuxième point, la deuxième condition, ça va être que l'investisseur doit devoir être assujetti à TVA. Le nouvel investisseur doit lui faire la démarche de s'assujettir à TVA comme l'était lui-même le vendeur, puisque le fisc attend de percevoir la TVA sur les loyers récupérés.
Du coup, il faut créer une société ?
Pas du tout. C'est juste une inscription qui se fait simplement par le biais, si on le souhaite, d'un cabinet comptable, et je le conseille la première année, mais il n'y a pas de société, c'est un investissement à titre de personne physique. On peut mettre en place une société, mais ce n'est pas obligatoire. Et le dernier petit point, je vous coupe encore parce que les auditeurs se disent comment ne pas perdre ma TVA, ça va être surtout de continuer le bail commercial. Il faut continuer. Oui. L'acquéreur doit, en connaissance de cause, acheter un bien qu'il sait, qu'il confie en gestion. Et ça, ce sont des éléments qu'on vérifie, qu'on contractualise dans nos compromis. Donc, aucun risque pour les vendeurs de perdre la TVA lorsqu'on suit ces règles.
Vous avez parlé de comptable. Arnaud, peut-être, on dit qu'un comptable est obligatoire pour le LMNP. Est-ce que c'est le cas? Et accessoirement, quel est le prix?
Alors, le comptable n'est pas obligatoire, c'est pas mentionné, il faut juste avoir des notions de comptabilité si vous voulez pas prendre de comptable, parce que au-delà de l'enregistrement de la première année au centre des impôts, vous allez avoir tous les ans les dotations aux amortissements, un peu plus tard les reprises d'amortissement, donc il faut quand même avoir quelques bases solides de comptabilité. On n'est pas sur du micro BIC, hein, puisqu'on est en régime BIC, quand on est en meublé, on l'a pas précisé, mais bénéfices industriels et commerciaux. On ne peut pas appliquer le régime du micro, si vous êtes en micro BIC, qui serait très facile, vous avez des abattements forfaitaires, vous n'amortissez plus, donc il faut être au réel simplifié, mais réel. Donc il faut avoir quelques notions de comptabilité. Un comptable est donc fortement conseillé. Quel est son prix? Vous allez avoir globalement une fourchette de comptabilité qui va être aux alentours de, en hors-taxe, de 350 à 500 euros par an. Nous, chez Patrimoine Store, dans le cadre de l'accompagnement premium, on a fait très différent. On a intégré en option à 14 euros par mois le comptable dans le cadre des packs premium, puisqu'on a un partenariat national avec un comptable.
Ouais, et puis petite note, c'est au moment justement de l'imposition, enfin de sa déclaration d'impôt, l'erreur peut coûter cher et bien plus souvent que ce qu'on a pu économiser avec en prenant pas cette option ou un comptable.
Exactement. Donc attention. Vous avez aussi la possibilité, ça existe encore, en plus du comptable, d'avoir le centre de gestion agréé, et vous aurez 2/3 de réduction d'impôt de la mission comptable. Donc ça vaut pas le coup de s'en priver.
Je vais vous demander des réponses un petit peu plus courtes car il reste quelques minutes. J'hésite entre investir entre loi Pinel et en LMNP senior. Quel est le meilleur investissement, Arnaud?
Alors ça, c'est pour moi. Il y en a pas un mieux que l'autre. Il y en a deux qui ont deux objectifs très 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 différents. Dans votre organisation patrimoniale, et pour faire très court, si votre but c'est d'économiser de l'impôt et de défiscaliser, on ira sur de la loi Pinel avec soit une revente dans 10 ans, soit une potentielle transformation dans 10 ans. Si votre objectif c'est de servir un complément de retraite, un revenu complémentaire, ou d'investir du cash, ça sera plutôt du meublé. Donc partez de plutôt votre objectif par rapport à l'investissement et par rapport à l'auditeur, et c'est votre objectif qui doit définir le support.
Voilà, et bien sûr, allez voir votre conseiller en gestion de patrimoine.
C'est ça.
Si vous n'en avez pas encore un, regardez, ça peut être important. Benjamin, doit-on acheter un appartement étudiant ou senior dans le neuf plutôt que l'ancien? J'ai l'impression que le neuf est vendu beaucoup plus cher.
Ben, j'ai un petit peu la même impression que ce monsieur, mais il ne faut pas jeter l'opprobre sur le LMNP, ça concerne tout le neuf. Ça concerne la Pinel, ça concerne la résidence principale, ça concerne tous les investissements en neuf, et on ne peut pas quelque part se dire que c'est lié à proprement parler au LMNP. Je ne reviens pas sur les sujets, on le sait pourquoi le neuf est cher, la rareté du foncier, des boosts, des lois fiscales qui boostent et qui dopent un petit peu l'investissement. Arnaud, dis-nous un petit mot sur la commission cachée.
La commission cachée, dans le neuf, vous avez, nous c'est notre credo chez Patrimoine Store, vous avez la commission du vendeur qui est intégrée dans le prix de vente, de manière totalement opaque. Donc l'investisseur a, surtout en LMNP, aucun moyen de savoir combien a été payé son vendeur. Et sur du LMNP neuf, il n'est pas rare d'avoir du 8 à 12% hors taxe de commission.
8 à 12%, ouais. D'accord.
Donc nous on l'enlève, c'est pour ça que je dis ça.
Il a raison. Donc allez, en gros, les avantages d'acheter plutôt dans l'ancien plutôt que dans le neuf, pour faire vite, on a peu de temps, les emplacements. On va être sur des emplacements encore plus urbains. Vous imaginez que ce qui se construit aujourd'hui se construit là où il y a de la place. Donc quand vous achetez une résidence qui a 10 ans, qui a 15 ans, qui a 20 ans, elle est automatiquement bien mieux placée en cœur de ville. J'y reviens toujours, les exploitations. Ce sont des sociétés. Vous investissez dans une résidence qui a déjà pignon sur rue, qui fonctionne, qui publie des comptes d'exploitation positifs. C'est un sacré, sacré moyen de vérifier dans quoi on investit. Arnaud en parlait, il n'a pas osé donner des prix. Moi, je les donne. En étudiant, c'est 50 000 euros. À 50 000 euros, je propose des produits dans des capitales régionales étudiantes où il y a réellement de la demande. J'ai des rendements également qui sont supérieurs aux neufs, mécaniquement, des prix plus faibles et des loyers qui ont été indexés dans le temps, donc des rendements meilleurs. Et puis pour ceux qui sont pressés de percevoir leur loyer, j'acte mes lots en 3 à 4 mois et la perception des loyers se fait tout de suite. Donc il n'y a pas à attendre une construction qui peut durer 18, 12 mois.
Ça c'est important. Ce que dit Benjamin est important, surtout si vous rentrez en cash. Si vous rentrez en paiement cash ou avec un gros apport, il va falloir avoir le délai de livraison le plus court possible. L'ancien va répondre puisque le jour de l'acte, vous avez vos loyers en VFA, donc vente en état futur d'achèvement dans du neuf. Vous allez avoir aujourd'hui sur du meublé minimum 18 mois de livraison.
D'accord. Tiens, une autre question. Si je ne suis pas content du gestionnaire, Benjamin, est-ce que je peux récupérer le bien pour le gérer?
Pour vous le gérer. Ouais. Non, c'est un petit peu difficile là aussi. Pendant la durée du bail, il n'est pas possible de récupérer le bien. Le bail est pour une durée de 3, 6, 9 ans. Il est confié à un gestionnaire contractuellement par un bail commercial. On ne peut pas le récupérer sauf grave faute de sa part. Mais si tout se passe à peu près correctement, si je suis juste un peu mécontent de lui, je ne peux pas récupérer mon bien. Il y a quand même un sujet aussi, et je vais faire court, je vais essayer d'être court, il y a ce qu'on appelle l'indemnité d'éviction. Il y a un sujet qu'on aborde assez rarement, c'est qu'on ne peut pas, à la fin du bail, évincer un gestionnaire qui veut se maintenir en place. On est dans le droit commercial, le droit du bail commercial, un exploitant qui ne veut pas partir peut demander une indemnité d'éviction. Pour faire simple, pensez à un artisan, un commerçant qui a investi dans son fonds de commerce, il a une propriété commerciale de sa clientèle, il doit être indemnisé. Alors en LMNP, ce n'est pas des grosses sommes, c'est à peu près 1 à 2 ans de chiffre d'affaires de votre chambre ou de votre appartement. Donc si vous voulez jeter un exploitant pour le gérer vous-même, pensez-y, s'il s'accroche, ça peut vous coûter 2 ans de ses loyers à lui.
On va essayer quand même d'éviter. Une dernière question, Arnaud. Un conseiller m'a dit que je perdrais de l'argent à la revente sur mon LMNP étudiant. Qu'en pensez-vous? Est-ce le cas?
Alors non, c'est pas une question de perdre de l'argent, ça dépend de la typologie d'investissement. Si effectivement vous avez acheté du neuf à un endroit beaucoup trop cher parce que justement il y avait sous prétexte de la TVA récupérable, vous avez acheté 20% plus cher, c'est valable pour tout immobilier en France. Si vous achetez votre résidence principale 20% trop cher, vous aurez du mal à la revente. Si vous achetez du LMNP ancien, vous aurez certainement des budgets plus abordables qui correspondent à des prix d'il y a 10 ans, donc vous aurez plus de facilité à la revente, mais ça dépend en fait de l'achat que vous avez fait, et si vous avez été vigilant à votre acquisition initiale, vous ne perdrez pas d'argent.
Voilà, bon, il y a beaucoup d'autres questions. Il faudra revenir, en tout cas, on a déjà un bon panorama de l'investissement dans la résidence étudiante et senior en LMNP. On n'oublie pas donc les 4 points, profitabilité, emplacement, bâti, exploitant, à vérifier. Si vous ne voulez pas le faire, vous allez voir Benjamin Falguérac, le responsable des partenariats, à Le Revenu Pierre, le site internet, pour ceux qui souhaitent plonger.
www.lerevenupierre.com.
Arnaud Groussac, conseiller en gestion de patrimoine chez Patrimoine Store. Site internet également.
Oui, patrimoinestore.com.
Patrimoinestore.com. Merci, messieurs, de nous avoir accompagnés. Arnaud Groussac, Benjamin Falguérac. Cette édition d'Allo Radio Immo est terminée. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle édition.
Allo Radio Immo, Posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.